On va changer complètement de sujet parce que notre invité est au bout du fil. Je veux vous raconter une histoire. À un moment donné, vous savez que pour la prise de rendez-vous au niveau de notre système de santé, c'est compliqué. Il y a eu plusieurs plateformes, plusieurs façons de prendre rendez-vous. Puis là, maintenant, c'est Clic Santé. Là. Dans le fond, c'est facile. T'es supposé aller sur... Ça, c'est quand t'as pas de médecin de famille.
Oui.
Comme moi, mettons. Moi, je me suis blessé.
T'es un orphelin.
Dernièrement. Je voulais voir un médecin, fait que je suis allé sur Clic Santé. Puis là, tu suis les étapes. Inévitablement, ça t'amène à soit appeler au 811 ou bien que quelqu'un du 811 qui t'appelle. Puis là, la personne au 811 m'a dit « Bon, ben non, on ne prendra pas de rendez-vous pour ça, allez voir un physio. » Ça, c'est terminé pas mal de même. Et à un moment donné, durant l'été passé, j'ai jasé avec deux infirmières qui étaient d'anciens employés d'InfoSanté.
Qui est devenu... jase avec les infirmières.
Ben, ça m'arrive. C'était un hasard.
C'est un hasard.
Ah oui, vous êtes des infirmières. Oui, on a déjà travaillé au 8-1. Ah ouais. Poser des questions. Et dans leur... Eux autres, ils ont comme une feuille d'étape là, quand oui. tu réponds à des patients. Et dans leur objectif, ils devaient essayer le plus possible de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin d'aller voir le médecin.
OK.
Imagine, c'est capoté. Là.
La destination là, dans le questionnaire, c'est vous n'aurez pas besoin d'un médecin, deux aspirines, deux Tylenol, restez bien... hydratez-vous à la maison.
Toutes les plateformes qui ont été... conçu, programmé pour le gouvernement. C'est toutes des affaires qui ont coûté 10, 14, 20, 25, 30, 50 millions. Et là, on apprend ce matin qu'on va encore mettre 14, presque 15 millions dans une autre nouvelle plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Encore une fois, pour essayer d'améliorer le système. 14,7 millions pour être précis. Pour en parler, très heureux qu'il soit avec nous ce matin, le Dr Karim El Ayoubi. Bonjour, Monsieur El Ayoubi.
Oui, bonjour à vous deux.
Comment ça qu'encore une fois, Santé Québec, entre autres, décide de revoir et de refonder une plateforme? On pensait que Clic Santé, ça fonctionnait bien, mais là, c'est plus assez pour la demande. Qu'est-ce qui se passe avec la prise de rendez-vous?
Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs choses ici. Lorsqu'on regarde une prise de rendez-vous comme ça, ben, le point pourquoi ça coûte vraiment aussi cher que ça, on peut vraiment se poser la question, parce que c'est pas comme si c'était une nouvelle technologie. Tout ça existe déjà. Il n'y a pas une création d'une nouvelle technologie. Il y a déjà des sites privés qui font ça un petit peu partout à travers le monde, comme par exemple Doctor Anytime, qui est utilisé un petit peu partout sur la planète. Donc, cette technologie-là existe. Et il y a également des pays qui ont... Si on le veut, parce qu'au Québec, on aime bien ça, avoir quelque chose de centralisé, d'étatique, il y a des plateformes qui existent, déjà des technologies. Par exemple, là, un des modèles qui a été répliqué dans certains endroits, c'est le modèle de l'Estonie, qui est un modèle de prise de rendez-vous centralisé, où est-ce que c'est gouvernemental, puis toutes les cliniques et tous les hôpitaux, toutes les cliniques externes du pays se doivent de donner leur disponibilité sur ce système-là. Et à partir de ce moment-là, les gens peuvent prendre un rendez-vous en ligne. Puis oui, c'est une façon de fonctionner on peut avoir des gains de productivité avec ça, si c'est bien fait. Mais le point pour tout ça, c'est que ce soit privé, comme par exemple Doctor Anytime, ou que ce soit étatique, cette technologie existe déjà. Il y a des produits clés en main qui existent. C'est pas comme si le Québec avait à tout reconstruire de par lui-même.
On n'est pas des pionniers là, dans la prise de rendez-vous.
Ben non,
là.
Zéro, zéro. Donc, tout ça existe déjà. Donc, pourquoi c'est si laborieux? C'est sûr que là, on dépasse mon domaine d'expertise. Là, moi, je suis pas un programmeur informatique. Faudrait peut-être demander à des gens qui ont plus d'expertise que moi dans ce domaine-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça existe déjà. C'est extrêmement laborieux ici, prendre les rendez-vous. Il y a un autre point aussi. C'est sûr que je vous entendais là, dans votre introduction dire que lorsque vous appelez, il y a comme un entonnoir qui va être fait. Ça, c'est pas mauvais en soi qu'il y ait une forme d'entonnoir, parce que ça peut arriver des fois que vous n'avez pas besoin de voir un médecin. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des gens qui peuvent être plus anxieux que d'autres, puis c'est correct, qu'une infirmière leur parle, ou même avec le temps, ce ne sera pas une infirmière, ça va être un logiciel d'IA. Là. Pour faire un pré-triage, tout ça commence déjà à exister. T'sais, c'est sûr que si vous dites, ben, écoutez, j'ai 34 ans, j'ai fait 38,3 buccales de température, je tousse un peu, j'ai pas de difficulté à respirer, puis j'ai pas d'expectoration, tout ça, puis j'ai un bon état général. C'est sûr que aller voir un médecin, vous perdez votre temps, et même juste vous, là, vous perdez votre temps à ce moment-là. Par contre, si vous dites, oh là, ça fait 5 jours, j'ai de la température, j'ai de la misère à respirer, ah là, on parle de quelque chose qui est complètement différent. Donc, qu'il y a un entonnoir, surtout dans un système de rationnement, c'est normal. Si vous aviez un système où est-ce qu'il y a trop d'effectifs pour la demande, à ce moment-là, naturellement, cet entonnoir n'existerait plus parce que les patients seraient vus comme des clients. Vous comprenez
mais
un peu?
Mais c'est pas au Québec que ça arrive, ça.
C'est pas au Québec que ça arrive. Aux États-Unis, vous avez, par contre, là, un système où est-ce qu'on vous veut absolument, mais on comprend qu'on est dans un système qui est complètement différent, où l'offre de service est beaucoup plus près de la demande et où il y a des assureurs privés, où il y a beaucoup plus de médecine privée. Donc, c'est sûr que l'entonnoir peut s'expliquer par également le système de rationnement sans qu'il soit pour éviter la surconsommation médicale.
Du médecin, de l'urgence, et, ouais, je comprends.
Exact, c'est ça l'objectif. Mais tu sais, quand même, pour avoir vu un peu comment ces infirmières-là sont formées, c'est pas dangereux, là. C'est-à-dire, il n'y a pas de question qui dit « Oh, vous avez mal dans la poitrine, consultez pas ». Non, ça n'arrive pas, là.
Mais je comprends très bien qu'on a besoin de ce filtre-là, cet entonnoir-là. D'ailleurs, on a mis en place en 2022 le guichet d'accès à la première ligne, qui a coûté une affaire comme 22 millions à peu près. J'ai l'impression que ça fonctionnait quand même bien comme système d'entonnoir. Moi, ma frustration est plus au niveau de... Je paye une carte d'assurance maladie, puis lors de ma blessure, on m'envoyait vers un physio que je devais payer au privé. Moi, ma frustration était peut-être un peu là. Mais le guichet d'accès à la première ligne, selon ce que vous constatez, je pense que ça fonctionne plutôt bien.
Ben, c'est le guichet d'accès à la première ligne, son importance, c'est parce qu'il y a des patients qui sont orphelins. Donc ça a été quand même, là, tu sais, j'ai pas donné beaucoup de crédit à Christian Dubé pendant son mandat. Par contre, ça, c'est une des choses que je lui ai donné du crédit pour avoir quand même une certaine honnêteté intellectuelle, c'est que à partir du moment où vous êtes dans un système où est-ce qu'il y a des patients qui sont orphelins, c'est-à-dire qui n'ont ni accès à un médecin, ni à une super infirmière, à partir de ce moment-là, vous devez donner un échappatoire à ces patients pour pas qu'ils se rabassent constamment à l'urgence. Donc, le ministre Dubé a mis des incitatifs à travers le guichet d'accès à la première ligne pour que ces patients orphelins puissent ne pas attendre des heures à l'urgence et avoir la possibilité de voir un médecin. Est-ce que c'est parfait? Vraiment pas. Je veux dire, il y a toutes sortes de la réforme de santé que je propose depuis des années est bien différente de celle-ci, mais dans le contexte actuel, disons que c'est un pansement efficace.
Mais ça désengorge les urgences.
Oui, exactement. Donc ça a été quand même une bonne initiative. C'est pas parfait, mais je pense que c'était essentiel dans le contexte où on a beaucoup trop de patients qui sont orphelins. Des fois, il y a des gens qui se ramassaient pour aller faire remplir des papiers de, par exemple, aller faire remplir des papiers de CSST à l'urgence. Ou de permis de conduire à l'urgence, qui fait absolument aucun sens dans un système qui se respecte. Gardons l'urgence pour les choses urgentes, entre guillemets. Pour l'histoire du physiothérapeute, je comprends votre frustration. Oui. le point, le problème, c'est pas d'avoir vu un physio, parce que des fois, les physios sont meilleurs que les médecins pour prendre en charge certaines pathologies musculo-squelettiques. Mais le problème, puis je comprends votre frustration, c'est que vous payez des impôts, vous payez des taxes.
Exactement.
Vous êtes le plus taxé en Amérique du Nord. Et le physio,
faut que je le paye encore. Puis on va me dire, oui, mais il y en a qui sont disponibles dans le système public, mais la liste d'attente est interminable. Je veux dire, je vais me soigner moi-même, puis je vais essayer de renforcer mon muscle qui est déchiré à un moment donné. Là. Moi, ce qui me frustre, c'est de payer deux fois pour avoir un service dont j'aurais besoin.
C'est ça. Donc, le problème, c'est pas le physio en soi qui est un excellent professionnel. C'est le fait que votre assureur ne remplit pas son rôle d'assureur. Comme si vous aviez un accident d'auto, puis ça donne votre assureur, vous appelez votre assureur, peu importe c'est qui, puis il vous dit, on a signé un contrat, vous avez une franchise de 500, mais la compagnie va pas trop bien, mais la franchise est plus à 500, est à 2000.
Ouais, non, c'est
puis,
ça.
Puis en passant, vous allez attendre 6 mois pour votre véhicule. Ben là, vous seriez pas content, on s'entend.
Absolument. Et c'est tout le concept, peut-être, justement, du médecin de famille qui fonctionnait dans les années 80-90, quand le médecin de famille avait un bureau, soit dans son sous-sol, dans une petite salle, une petite clinique là, sur le coin de la rue au village. Mais là, tout le concept de médecin de famille, la liste d'attente est tellement longue, ça fait en sorte qu'on ne sait pas, comme moi, je suis orphelin de médecin de famille depuis 3-4 ans, chasmatique et je devrais avoir un suivi, mais je sais pas vers où me tourner, là, M. Layoubi. Donc, tout ce concept-là de médecin qui prend un nombre de patients en charge, c'est peut-être désuet aussi, là.
Ben oui, c'est-à-dire qu'il faut voir... c'est pour ça que l'approche avec les cliniques, par exemple, que ça s'appelle GMR, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, oui, est assez intéressante. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait être suivi la majorité du temps. Disons que vous êtes diabétique. Je donne un exemple. Là, moi, la majorité de mes patients qui prennent de l'insuline, s'ils ont besoin de 8 rendez-vous dans l'année, ben c'est 7 avec l'infirmière puis 1 avec moi. Parce qu'ils n'ont pas besoin de me voir à toutes les fois. L'infirmière est super bonne pour faire ça. Donc ça fait partie du décloisonnement des professions. Faut continuer, faut mettre de l'emphase par rapport à ça pour que les gens soient pris en charge. Vous n'avez pas besoin d'être pris en charge juste par un seul individu. C'est une équipe de soins qui englobe plusieurs personnes. J'ai des patients, par exemple, en santé mentale. Ils n'ont pas besoin de me... Moi, ils ont besoin de me voir pour ajuster leurs molécules. Mais pour ce qui est du suivi, tout ça, une travailleuse sociale peut faire même un meilleur travail que moi pour une thérapie de la parole, par exemple. Donc ça, c'est... Ou un psychologue encore, un psychologue à un autre niveau également. Donc c'est plus des équipes de soins. Je pense que l'avenir est plus aux équipes, ouais, de soins que à la prise en charge, par exemple, le médecin qui prend 3 500 patients en charge. Puis avec aujourd'hui, c'est plus comme en 1980. Là. C'est-à-dire que vous pouvez pas juste écrire raison de consultation, diagnostic, traitement. Vous allez vous faire taper sur les doigts par votre professionnel. Ouais. C'est beaucoup la rigueur de tenue de dossier, faire en sorte qu'on passe de plus en plus de temps à faire de l'administratif plutôt que de passer du temps avec les patients. Ce que nos prédécesseurs avaient, il y avait beaucoup moins de lourdeur de ce côté-là. Et également, ben, les mentalités ont changé. Hein, tu sais, c'est-à-dire que pour remplacer un médecin, par exemple, qui est à la retraite, nous, on en a un qui est pas loin de 70, qui prend sa retraite bientôt, ben, ça en prend deux de nouvelles générations parce que le débit, le rythme de travail, ces choses-là, les mentalités ont...
C'est différent.
Ouais, les mentalités ont changé. Les médecins, ça fait... C'est comme le reste de la population. Hein, c'est pas... c'est pas des gens, des super-héros avec des capes. Hein, c'est...
Ah, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Ça reste des humains, hein, c'est ça.
Docteur Layoubi, on a compris dans les dernières semaines que la CAQ était un peu en déroute. Là, le premier ministre du Québec, François Legault, a en fait remis sa démission, on peut dire ça comme ça. Puis au fil des semaines aussi, on a vu différents ministres, pour des raisons, là, soit qui se présentent à la tête de la CAQ ou encore des intérêts un peu plus obscurs comme Christian Dubé, ont quitté leur poste. Est-ce qu'on a l'impression, en fait, que jusqu'aux prochaines élections, en fait, en octobre prochain, le Québec est un peu en jachère ou plutôt en attente? Y a-t-il un pilote dans l'avion au ministère de la Santé présentement? Est-ce que vous avez confiance en Mme Sonia Bélanger qui a repris les rênes de Christian Dubé? Est-ce qu'il y aura des choses de mise en place d'ici l'élection ou on est comme stand-by en attendant puis il se passe rien?
Moi, j'ai l'impression qu'on est stand-by. Ben, il reste la chose qui n'est pas stand-by, c'est-à-dire l'entente. La Fédération des médecins spécialistes ne s'est pas encore entendue officiellement, donc c'est sûr que là, il va y avoir des négociations par rapport à ça.
Il faut arriver à une conclusion, là.
Absolument. Donc ça, c'est sûr que ça va bouger de ce côté. Mais moi, en tout cas, stratégiquement parlant, si j'étais la CAQ, je parlerais zéro de santé. Si j'étais un conseiller à la CAQ, je dirais... Si c'est M. Drainville qui va être chef ou Mme Fréchette...
Parle pas de réforme de la santé, là.
Non. Parlez pas de réforme de santé. Parlez du référendum à PSPP. Parlez de n'importe quoi. Parlez de la loi 21. Parlez de la loi 96. Parlez de la constitution de Simon-Jolin Barrette, des genres de choses comme ça. Allez dans l'identitaire, allez dans ces genres de trucs-là. Ne parlez certainement pas d'économie ou de santé parce que c'est une catastrophe en soi. Et là, je reviens, est-ce qu'il y a un pilote à la santé, est-ce que j'ai confiance
en
la ministre actuelle ou est-ce que j'ai confiance en sans les top guns de Santé Québec, incluant Mme Biron? La réponse, c'est non, et c'est pas en raison des êtres humains qu'ils sont.
C'est pas personnel. Bon,
c'est zéro personnel, c'est que le modèle en soi ne fonctionne pas. Puis moi, je me prétends pas plus intelligent que Christian Dubé, bien au contraire. Le problème, vous l'avez essayé le meilleur des meilleurs. Là. Vous aviez, là, vous pouvez pas
les
avoir
top
un
gun,
plus
ouais.
C'est un plus gros CV que Christian Dubé, un gars plus brillant que Christian Dubé, un gars avec le plus d'expérience
plus
possible.
Plus déterminé que lui aussi, parce qu'il était vraiment déterminé au début de son mandat.
Exact. Donc, le vrai de vrai Top Gun, vous l'avez essayé. C'est pas qu'il est pas bon, il a prouvé toute sa carrière qu'il était bon hein, pour relever des entreprises, il a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il va dans la mauvaise direction. Il a plus centralisé, il a affaibli.
Il a ajouté une structure en plus avec Santé Québec, là.
Ajouter une structure en plus. Ouais. Il a fait demi-tour par rapport au privé en santé, donner plus de possibilités d'aller faire de la pratique mixte d'un côté et de l'autre, comme les meilleurs modèles fonctionnent un peu partout sur la planète. Il n'a pas regardé ce qui fonctionnait bien sur la planète, il a essayé de recréer des nouvelles structures, de brasser des nouvelles structures. Donc, peu importe l'intelligence et peu importe la détermination de l'individu, s'il va dans la mauvaise direction, ça ne peut pas fonctionner.
Monsieur Layoubi, toujours un plaisir de vous parler. On va suivre ça, le dossier de la santé évolue. Peut-être une petite dernière question en terminant, parce que là, on va investir encore presque 15 millions pour améliorer le système de rendez-vous. Comment ça va? On voulait s'assurer que le système informatique de la santé au Québec soit uniforme, qu'ils puissent se parler entre eux, là, parce qu'il y a des hôpitaux qui sont pas capables de communiquer avec l'autre. Comment ça va l'uniformisation du système informatique dans la santé au Québec?
On est très loin de ça. Ouais. On est très, très loin, puis je suis pas sûr que...
On va y arriver?
Je suis pas sûr qu'on va... Du moins, là, d'ici la fin de ma carrière, je suis pas sûr qu'on va y arriver. C'est très, très laborieux. Puis encore une fois, il y a des systèmes qui fonctionnent. Puis là, on n'est pas... des fois, moi, je vous tanne avec mes modèles internationaux. Ouais. Mais là, on n'a pas besoin d'aller très, très loin. Là, tu sais, l'Alberta a un système, le Netcare Portal, qui fonctionne super bien. C'est le plus performant au Canada. Donc, il y a des produits qui existent déjà. Pourquoi on les prend pas? La réponse, je ne l'ai pas.
Karim Elayoubi, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Bon, c'était au courant.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée. Karim Elayoubi, qui est médecin, qui est dans le système. Puis, tu sais, il y a encore des hôpitaux, là, je te le dis, c'est le fax, là, parce que ton dossier de santé, mettons, à l'hôpital, je sais pas, je vais dire l'hôpital de Lévis, là, puis il faut que tu sois vu par un médecin à Québec, bien, ça se peut que ton dossier se rende pas. C'est super, ça prend un messager en BSIC.
Ou un fax. Deux technologies de notre époque. La messagerie vélo ou encore le bon vieux fax.
Est-ce que on a appris la semaine dernière que Mark Carney a fait un deal avec la Chine? Là, on va accueillir ou en tout cas, il devrait être disponible au Québec à peu près 50 000 voitures chinoises. Beaucoup de gens s'inquiètent concernant la fameuse technologie de ces voitures-là. Est-ce que ce sera des voitures espionnes pour la Chine? On va en parler avec l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse tout de suite après ceci. Bougez pas.
Couture dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy. Radio X.